d'emploi. Mode d'emploi. Bonjour, vous êtes bien sur Secret de Fabrication, donc le format mensuel de Mode d'Emploi qui parle de la vie dans les entreprises. Et voilà, comment on résiste à la chosification dans les entreprises. Et alors donc les modes de résistance sont très variés. Aujourd'hui, on va parler de ce qui s'avère être effectivement un mode de résistance à la vie dans l'entreprise, et la résistance à plein de facteurs. Qu'on va voir ça de plein de manières différentes. Aujourd'hui, le sujet est donc se doper pour travailler, qui est le titre d'un ouvrage donc paru très récemment aux éditions ERES, Clinique du travail, sous la direction de Renaud Crespin, si présent. Voilà.
Bonsoir.
Voilà, bonsoir. Donc Dominique Lullier et Gladys Lutz, avec un grand nombre de contributions de sociologues du travail et donc de personnes qui se préoccupent donc de la santé au travail
et des syndicalistes, d'acteurs de soins,
c'est ça,
de la prévention,
c'est ça, avec tout qui tourne tout autour de cette question de se doper pour travailler. Avec et on va mettre l'accent sur on va faire un peu de définition des termes se doper. Mais d'abord, Boxart, tu as donc une petite information à nous donner sur un texte de loi qui est sorti récemment.
Oui, c'est juste pour contextualiser l'émission de ce soir, parce que donc nous abordons bien évidemment entre autres choses la question des addictions. Mais aussi donc du recours à des produits psychoactifs dans le cadre du travail. Et donc c'est d'autant plus d'actualité qu'a été voté en décembre dernier par le gouvernement donc le plan national de mobilisation contre les addictions 2018-2022. Et donc en préambule de cette feuille de route, le Premier ministre Édouard Philippe assure que les chiffres de la mortalité imputable au tabac reste de 73 000 décès par an. L'alcool, nous en sommes à 49 000 décès par an. Et il faut quand même bien observer donc l'absence totale de mobilisation sur l'alcool dans ce plan, ce qui semble assez paradoxal avec la volonté gouvernementale, je cite, hein, d'en finir. Il faut bien aussi souligner que cette réticence donc à mobiliser le thème de l'alcool sur la question des addictions pourrait être résulté, si vous voulez, de certaines accointances entre certains députés LMR et les lobbies viticoles. Comme disait Emmanuel Macron, tant que je serai président, il n'y aura pas d'amendement pour durcir la loi Evin.
D'accord, ça au moins c'est dit. Mais cela étant dit, tout le monde sait que l'alcool, c'est pas une drogue. J'ai une connerie. Bon, ok, d'accord, on arrête. Non, on va parler aussi d'alcool. Hein. C'est aussi un des volets de cette étude. Ce bouquin, justement.
L'ouvrage traite des évolutions des usages des produits psychoactifs, comme je l'ai dit en introduction, avec celle du travail, en repensant les liens qu'entretiennent le travail et le recours à ces produits, mais aussi il questionne les politiques et les actions de prévention. Vous donnez la parole à des chercheurs, mais aussi à des salariés, à différents acteurs du travail, dont des syndicalistes et des acteurs de soins. Alors, vous mettez en avant que le stéréotype du salarié alcoolique, nous en parlions, a permis et permet toujours de continuer à croire que les usages professionnels de produits relèvent d'un problème localisé et privé. Ce stéréotype et cette croyance font obstacle à une réflexion d'un côté sur les nouveaux usages de ces produits et de l'autre les rapports ambigus qu'entretiennent les entreprises avec ces usages. Or, vous montrez très bien que le monde du travail a changé, les produits, leurs usages, leurs fonctions sont pluriels. La question qui constitue le fil rouge de cet ouvrage est donc à quoi sert la consommation de ces produits ? Quel sens les salariés donnent-ils à ces recours ? Alors, outre la force de ces représentations et croyances qui guident encore les politiques et actions de prévention, pour aborder ces usages, un autre obstacle apparaît. C'est celui d'une approche à la fois médicalisée ou sanitaire et individualisée avec l'accent mis sur les addictions par les acteurs de la prévention, mais aussi répressive, ce qui remonte à la loi de 1970. Car ces usages comprennent, à côté des substances légales, des substances illégales. Or, vous dites, dissocier les usages de produits psychoactifs et l'addiction est un impératif pour lever les tabous et ouvrir la voie à une réflexion collective sur la prévention. Ce qui suppose aussi de mieux considérer le profil sociologique des salariés face aux messages préventifs. Ces messages n'ont pas la même portée selon que les salariés appartiennent au groupe défavorisé ou au groupe aisé. Vous invitez donc à sortir de cette vision qui diagnostique le problème soit du côté de la faute et de la sanction, et donc de la morale, comme peut le faire le dépistage des drogues. Deux articles sont consacrés à l'analyse et au rôle des dépistages. Soit du côté de la maladie individuelle, comme tend à le suggérer l'approche par les addictions. Enfin, et vous insistez beaucoup là-dessus, pour se défaire de ce tropisme, il est nécessaire d'analyser le lien réel, le travail réel en lien avec ces usages de produits psychoactifs, de manière à éviter de mettre de côté les tensions, les responsabilités et les dynamiques collectives qui peuvent expliquer leur recours par les salariés. Pour cela, il faut considérer les formes d'organisation du travail qui s'avèrent délétères pour la santé des salariés. Par exemple, vous montrez que les salariés souffrant de troubles musculo-squelettiques, les fameuses TMS, première cause de maladies professionnelles en France, se tournent davantage vers l'automédication, avec les effets délétères à long terme que l'on sait, pour échapper au radar de l'employeur, plutôt que vers une prise en charge du problème par ce dernier et les autres acteurs de la prévention. Ce qui revient à laisser ces organisations du travail qui s'avèrent nocives pour les salariés en l'état. Et votre ouvrage est une alerte, dans le sens où vous dites « attention, ça peut empirer si l'on considère le contexte du monde du travail actuel ». Avec une intensification des exigences productives, le défaut de coopération dans et entre les équipes introduit par le management, comme on l'a vu la semaine, il y a trois semaines, l'exacerbation de la compétition, la crainte de perdre son emploi, autant d'éléments déterminants qui peuvent expliquer l'usage accru de psychotropes.
Eh bien, je suis très impressionné par cette introduction. Je ne sais plus ce que je peux vraiment dire maintenant, parce que c'est un parfait résumé de ce qu'on a voulu dire, en tout cas des lignes de force qui traversent cet ouvrage. C'est un ouvrage qu'on a réalisé effectivement à plusieurs mains, mais qui se base au départ sur une enquête, sur plusieurs enquêtes collectives, et sur des travaux réciproques qu'on avait menés avec Dominique Luyer, Gladys Lutz, et mes propres travaux sur l'histoire du dépistage des drogues aux États-Unis. Voilà.
Si je peux me permettre, il ne faut pas oublier, on en avait parlé lors d'une précédente émission, les derniers chiffres sont assez affligeants. Il y a un lien, j'arrive. On en est au chiffre aujourd'hui de 70 000 morts par an par overdose de fentanyl aux États-Unis. Donc fentanyl, une opiacée assez dure. Et ce qui est également une opiacée prescrite. On parlera des opiacés prescrits dans l'émission. Et donc c'est un vrai. Enfin, on est en train de parler vrai problème de santé publique. C'est-à-dire que là. C'est le même chiffre que la France pour l'alcool. Ouais. Hein ? Alors évidemment, c'est pas la même proportion, c'est pas la même taille du pays, mais quand même, on est sur un vrai problème de santé publique. Voilà,
oui,
par exemple.
On peut tout de suite faire un parallèle avec ce qui se passe aujourd'hui avec le tramadol, par exemple, où on sait aujourd'hui que c'est la première cause d'overdose déclarée dans les hôpitaux. Hein, c'est pour les usages de tramadol, les usages trop importants de tramadol. Alors ce sur quoi je voudrais revenir tout de suite, parce qu'il y a cette ambiguïté de se doper pour travailler, sachant que le mot de dopage renvoie généralement au monde du sport professionnel. Alors dans le monde du sport professionnel, et comme dans le monde du sport amateur d'ailleurs, hein, parce qu'il faut pas se leurrer, la notion de dopage, en fait, hein, ça renvoie à une faute contraire à l'éthique sportive. On pourrait appeler l'éthique sportive. Il s'agit en fait de situations en fait où la prise de produits permettrait d'améliorer des performances, en fait, physiques ou cognitives, et qui fausserait, en fait, une forme d'équité de la compétition. C'est-à-dire qu'il y aurait des tricheurs. Hein. Des listes de produits interdits existent, et ces pratiques sont souvent dénoncées sans pour autant qu'elles soient véritablement éradiquées. Hein. On est tous un peu des cyclistes, hein, d'une certaine façon. Bon. Dans l'entreprise, dans le monde de l'entreprise, il n'y a pas vraiment d'équivalent. On peut pas parler d'un code éthique de la compétition économique ou commerciale hein, qui s'imposerait à tous les acteurs. On est loin de là. Le mot de dopage est plus répandu qu'on ne le pense et fait en fait référence à des pratiques très différentes, en fait très diverses, qui ne s'inscrivent pas forcément dans le cadre d'un discours de désapprobation morale, hein, puisque en fait rien n'interdit d'utiliser certains produits légaux comme le café, le sucre, la nicotine dans une logique que l'on peut qualifier de dopante. Hein. Mais dans le monde de l'entreprise, on ne dira pas qu'on se dope, hein, on dira qu'on se file un coup de fouet, qu'on prend un petit stimulant, qu'on aide à se concentrer ou des choses comme ça. Voilà. En fait, c'est souvent des produits qui sont soit prescrits, soit qu'on s'auto-prescrit hein, pour faire son travail, en fait, pour faire le travail. En ce sens, et cela renvoie à des produits qui peuvent s'utiliser. Hein, c'est surtout ça un des arguments forts du livre, c'est se déprendre en fait de la pharmacologie, hein, de cette idée que les produits ont un certain type d'effet. En fait, les salariés utilisent toute une gamme de produits pour des choses complètement différentes. Par exemple, des gens peuvent fumer des cigarettes soit pour faire une pause, soit pour réfléchir, soit pour se reposer, soit pour travailler, pour se concentrer, etc. Donc c'est pas la nicotine, n'a pas un usage, n'a pas une fonction pharmacologique particulière. De même, le cannabis, certains l'utilisent effectivement pour passer le temps, hein, dans les longues plages de travail où il n'y a pas grand-chose à faire avant un coup d'accélérateur. D'autres utilisent le cannabis, par exemple, pour faire des travaux très répétitifs. Hein. Dans le BTP, on sait très bien, et les travaux de Marie Nguyen-Guéné le montrent très bien, c'est une thèse qui vient d'être soutenue à Nanterre, elle montre très bien, par exemple, que les salariés du bâtiment, enfin, du sous-œuvre du bâtiment, hein, peuvent utiliser du cannabis, par exemple, lorsqu'il s'agit de poncer les parquets. Ça permet, en fait, de s'isoler en faisant une tâche répétitive et de faire passer le temps de cette tâche répétitive voilà, à l'aide du cannabis. Ou alors, il y a des exemples, moi je sais que j'avais travaillé aussi sur ce type de terrain, la peinture des radiateurs, par exemple, hein, implique parfois des consommations de cannabis, alors que c'est complètement pas utilisé par les ouvriers dans le cadre, par exemple, de peintures de grande surface où il faut être à plusieurs, etc. Mais la peinture de radiateur, c'est un geste très répétitif, très long, on fait 20 radiateurs, il n'y a aucune raison de ne pas en fait, faire passer le temps en même temps qu'on fait un geste extrêmement répétitif. Voilà. Donc il faut se déprendre un peu de cette idée qu'à un certain type de produit correspondrait à un certain type d'effet. En fait, ce qu'on remarque, c'est qu'effectivement, les produits servent à plusieurs choses. Bon. On pourra revenir d'ailleurs sur les fonctions des produits en se déprenant des produits et en travaillant sur les fonctions que peuvent avoir les produits. On pourra y revenir si c'est une question.
Ça veut dire qu'il y a différentes professions pourront utiliser le même produit pour obtenir des effets différents.
Différents, tout à fait.
Voilà. Adaptés à leurs besoins particuliers.
Voilà, adapté j'y reviendrai. Alors, je voudrais juste revenir sur cette idée de dopage, parce que je pense que c'est quelque chose de très important. Alors, bien sûr, ce que je viens de dire auparavant, c'est de dire d'une certaine façon que ces produits peuvent être des béquilles hein, ou des instruments de travail dans un certain nombre de situations de travail. Mais avant qu'il renvoie à l'imaginaire des drogues, hein, le terme de dope, hein, qui vient du néerlandais en fait, dopen, signifie tremper, désigner en fait argotiquement une sauce épaisse, grasse et protéinée que l'on rajoutait aux aliments de base pour qu'ils soient plus consistants. Hein. Par exemple, quand on travaillait dehors, on rajoutait de la dopen pour pouvoir supporter le froid. Hein. Voilà. Puis au début du XXe siècle, le terme de dope en argot américain hein, désigne en fait un sirop sucré et collant. Une sorte de mélasse en fait avant de servir à qualifier quelque chose qu'on connaît assez bien, on fait pas de publicité ici, mais ils sont une boisson gazeuse qui a un goût de cola hein. Et d'ailleurs c'est le terme de dope sert par exemple encore dans certains états du sud des États-Unis à désigner cette boisson gazeuse. Voilà. D'une façon générale en fait le terme de dope renvoie à tout un ensemble de substances visqueuses que l'on rajoute à quelque chose pour améliorer, augmenter ou potentialiser ses propriétés de base. Pour revenir à cette question qui me semble assez importante, c'est-à-dire de se déprendre d'une approche pharmacologique des produits, c'est se rappeler et peut-être avancer sur la question de quelles sont les fonctions que peuvent avoir dans le cadre du travail le recours à des produits. Et là, on a collectivement travaillé sur essayer de catégoriser un certain nombre de fonctions, de les spécifier. Oui, j'oublie toujours le micro. Alors, quelles sont les fonctions professionnelles des usages de produits psychoactifs? Eh bien, on a trouvé d'abord une première fonction qui est la fonction de s'anesthésier, pour tenir physiquement et psychiquement, notamment contre la fatigue, la peur, l'ennui, la douleur, l'angoisse, etc., qui peuvent caractériser certaines situations de travail. On a aussi une fonction tout à fait différente, qui est une fonction de stimuler, d'euphoriser, de se désinhiber, par exemple pour rester éveillé, pour enchaîner, pour assurer, pour faire le job. Voilà. Donc, à cela, on peut rajouter d'autres fonctions qui sont, par exemple, celles de récupérer. Mm-hmm. Moi, j'ai un cas tout à fait particulier. On a interrogé, je me rappelle avoir interrogé une jeune femme qui travaillait dans des émissions, disons, dans les médias, mm-hmm. qui était en charge d'une production d'une émission quotidienne. Bon. Et en fait, quand je l'interrogeais, elle avait recours à tout un ensemble de produits, à la fois pour récupérer, pour se désinhiber, et aussi pour entretenir une forme de convivialité dans le travail. Hein. Mm-hmm. Voilà. Alors, elle enchaînait un certain nombre de produits.
Donc, en fait, en fonction de sa phase de travail, en fonction de la phase d'avancement du travail, on prenait un produit pour se lancer, un produit pour sortir du travail, c'est ça?
Et tout à fait. Ouais. Il faut savoir, par exemple, que ce type de travail qui est contraint par des logiques de charrette mm-hmm. quotidiennes, mm-hmm. bon, qu'est-ce qu'il se passe? Les métiers de la production, lorsqu'il s'agit de fabriquer une émission de télévision, il y a une logique d'arrivée des images, de traitement des images, de mixage et de rendu. Et ça se produit sur un temps relativement long dans la journée. Mmh. Alors, vers 18h, les salariés quittent l'entreprise, mais la logique de production d'émissions continue. Mmh. À partir de là, on mange sur place, donc on boit un coup. Ensuite, on arrive à 23h. Bon, les images arrivent, il faut les mixer. Donc là, il faut se prendre un petit dopant, hein, quelque chose qui permette de continuer. La cocaïne n'est pas absente à ce moment-là. Bon, ça nous envoie à 2h, 3h du matin. À 2h, 3h du matin, il faut dormir pour pouvoir revenir le lendemain. Donc qu'est-ce qu'on prend? Ben, soit des médicaments pour dormir, hein, soit on fume du cannabis pour s'endormir. Hein. Et ça repart le lendemain avec le café qui permet de se réveiller, etc. Bon. Et ça, c'est pas forcément des choses qui conduisent à des mécanismes de dépendance. C'est des moments dans une carrière, et c'est souvent le cas de gens qui doivent faire leurs preuves. Hein. Je vous parle de quelqu'un qui avait moins de 30 ans, qui avait une responsabilité importante à un moment donné, qu'il fallait qu'elle fasse ses preuves sur une émission de cette sorte-là.
Donc c'est des usages temporaires.
Ce sont des usages temporaires. Mais ces usages temporaires peuvent devenir, dans le cas où ces situations de travail perdurent, plus continues. Et là se pose la question du lien, évidemment, entre les usages de produits qui servent à faire le travail, et après, une dépendance vis-à-vis des produits. Voilà. Le lien avec l'addiction est possible, oui. L'addiction au sens de dépendance.
Ouais. Moi, je peux pas citer chaque auteur de chaque article, hein, parce que c'est un florilège, mais j'ai lu dans un des articles qu'on n'est pas dans une situation on est très souvent dans une situation qui est un peu à distance de l'addiction telle qu'on l'entend, on va dire de l'addiction à la drogue, en fait, quel que soit d'ailleurs le produit visé. C'est que les gens ont bien conscience et en fait, c'est vraiment le travail qui les amène à prendre ces produits. C'est-à-dire que quand les conditions de travail changent ou qu'on leur propose une substitution ou une autre solution, ils sont capables d'abandonner le produit. C'est pas une addiction au produit. C'est vraiment une addiction au produit comme béquille. On en a besoin pour faire le boulot. Et c'est pas, ils ont pas un goût particulier forcément. Alors ça peut arriver.
Après, ça peut se transformer. Comme
oui, voilà, ça peut. Mais ils ont pas forcément un goût particulier pour le produit, pour ses effets. Mais ils en ont besoin pour rythmer et organiser leur travail. Oui. C'est ça, hein, c'est très souvent.
Bah, d'une certaine façon.
D'où l'intérêt de bien voir les choses sur les deux volets.
Voilà.
C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un côté béquille et l'autre côté dépendance,
voilà.
sans qu'ils soient articulés pour autant nécessairement, mais ils peuvent l'être aussi,
voilà.
Bien sûr,
en fonction du contexte du travail.
Et ça va bien à l'encontre de toute une réflexion de très dominante sur la question des usages de drogue. On renvoie toujours à la question de l'addiction. On ne sait pas que voilà, c'est-à-dire qu'on enferme la question des usages dans des usages forcément nocifs ou forcément excessifs
ou stigmatisants
ou qui pourront produire des effets de santé. Ce qu'on le repère dans les interviews qu'on a menées, dans les enquêtes qu'on a menées de terrain, c'est que les salariés savent très bien ce qu'ils utilisent. Ils modulent leur consommation en fonction du travail. Bon, ils ont tout intérêt à faire bien leur travail. C'est pas contre le travail qu'ils prennent des produits, c'est pour le travail. Pour y tenir, pour s'y tenir, pour bien le faire, pour continuer à le faire. Ils n'ont absolument pas envie de perdre leur travail. Bon, et les produits servent à garder le travail. Bon. Et ça, je trouve que c'est une question extrêmement importante. Et d'une certaine façon, les entreprises aussi ont tout intérêt avec les individus, dans des univers de transformation du travail aujourd'hui, avec des logiques d'intensification de la production, de compétition entre les salariés, d'individualisation des carrières, d'horaires de travail de plus en plus hachés, avec des horaires décalés, etc. Savent très bien que les salariés peuvent être amenés à utiliser les produits pour faire leur travail. Et en fait, et c'est ça le paradoxe des usages de produits, c'est que derrière la logique de la prévention ou de la sanction, ce qui n'intervient extrêmement rarement, parce qu'il faut le dire quand même, c'est-à-dire que la sanction de la part des entreprises intervient à partir du moment où le travail n'est plus fait, ou qu'il y a un désordre dans les équipes de travail. Mais tant que le travail est fait, la plupart des entreprises ont intérêt à ne rien dire. Et en fait, c'est une façon, les usages de produits servent aussi pour les entreprises à maintenir des organisations de travail nocives.
C'est ça. Voilà.
Donc on est en fait ici dans une logique qui est assez circulaire.
Oui, il n'y a pas de solution. Si on reste dans la logique pure de l'entreprise, c'est un non-problème en fait.
C'est ça.
C'est un non-problème. C'est un problème qu'il ne faut pas traiter.
C'est un problème qu'il ne faut pas traiter. On le traite qu'à partir du moment où il devient un problème pour la production et pour l'organisation du travail ou pour les équipes de travail. Voilà.
D'accord. Donc on ne sanctionnera pas, par exemple, l'usage du cannabis sur certains personnels de piste dans les aéroports. Il y a un des chapitres qui s'adresse à cette question-là. Donc on pourrait dire qu'il n'y a pas de cannabis dans les aéroports puisqu'il y a une sécurité renforcée, mais on voit qu'en fait, beaucoup de personnels d'assistance piste de diverses professions se fument un petit joint pendant la pause, voire avant de prendre le travail, et en tout cas certainement après, au moment de la sortie de vacation. Et donc, ce qu'on sanctionnera, c'est le type qui est trop visible.
Ou qui a un accident.
Ou qui a un accident, voilà, exactement.
Parce que là, on va à l'encontre des obligations de sécurité et de santé de la part de l'employeur.
Ouais. Voilà.
Bon. Et que, effectivement, renvoyer un accident qui peut être lié à toute autre chose que la prise de produit, mais s'il y a une personne peut être positive à un test de dépistage, eh bien, ça déresponsabilise l'employeur vis-à-vis de sa responsabilité en matière de santé du travail.
Alors là, si je peux faire une petite intervention.
Mais ça veut dire que les acteurs de la prévention sont aveugles là-dessus ? Enfin,
J'allais dire.
La question, c'est qu'on se rend compte que les acteurs de la prévention sur ces questions des usages de produits sont relativement dépourvus.
C'est-à-dire que l'obligation de sécurité de l'employeur, quand est-ce qu'il est respecté concrètement ?
Quand il y a un problème.
Et d'ailleurs, enfin, juste la petite intervention de l'inspection du travail, là, pour le coup, nous, un problème qu'on a en cas d'accident du travail, même d'accident du travail mortel, c'est la prise de sang. C'est-à-dire que devant un tribunal, au moment de l'audience pénale, il y a un paratonnerre pour les employeurs qui est automatique, d'accord ? C'est oui, mais le salarié était sous l'emprise de substances. Et ça, c'est la fin de la procédure pour nous. C'est-à-dire, grosso modo, on peut avoir violé des règles de sécurité, mis le salarié en danger, oui, mais il avait fumé avant d'aller sur le chantier.
Oui,
et ça, c'est terminé. L'employeur, c'est pas sa faute. C'est plus sa faute. Ça retombe sur le salarié, mort ou vivant d'ailleurs. On se retrouve avec des accidents du travail mortels.
Classés sans suite. C'est renvoyé à l'individu.
C'est renvoyé à l'individu.
Oui,
exactement.
On l'extrait de l'environnement dans lequel il était.
Exactement.
Ça a un double avantage. Ça a l'avantage d'abord d'éviter de s'interroger sur les organisations de travail.
C'est ça.
Voilà.
Mais de trouver en même temps un responsable.
Voilà. Donc, qui n'est pas l'employeur.
Qui n'est pas l'employeur. Voilà. Et la logique du dépistage tel qu'il a été promu, notamment à la fin des années 2000, entre 2007 et 2013-2014, répondait essentiellement à cette obligation-là. C'est-à-dire qu'il fallait donner aux employeurs la possibilité d'avoir un instrument qui pouvait exonérer les employeurs de leurs responsabilités en matière d'accident du travail. Bon. Et les travaux qui ont été menés sur cette question-là, les travaux de promotion du dépistage, faisaient explicitement référence à cette obligation des employeurs. Ça a été un argument de vente, d'une certaine façon, un argument de promotion. Voilà. Les savoirs managériaux et juridiques qui permettent de dire, les employeurs, si vous utilisez du test de dépistage, vous n'aurez pas à avoir à endosser la responsabilité en cas d'accident du travail, et donc à payer un certain nombre aux ayants droit, aux salariés comme aux ayants droit, les responsabilités. Voilà. Donc, on a occulté, ça permet de différer la faute, de différer la responsabilité.
L'employeur est gagnant sur tous les tableaux, en fait. Il a des salariés plus productifs, ou qui tiennent dans des conditions de travail impossibles, grâce au produit. Et si jamais il y a un problème, il peut toujours, lui, pour le coup d'un coup, découvrir que le salarié prend des produits.
C'est possible.
Ouais. D'accord.
Alors, il y a quand même quelque chose qu'il faut noter aussi, qui me semble quelque chose de très important, c'est que les salariés, ils consomment des produits pour faire leur travail, pour répondre à des rythmes de travail, à des obligations de travail, des conditions de travail particulièrement pénibles, notamment dans les horaires décalés, j'y pense beaucoup à ça, ou les métiers pénibles physiques, qui à partir d'un certain âge, eh ben, effectivement, on a mal aux genoux, on a mal aux coudes. Je pense dans le métier du BTP, c'est tout à fait classique. Mais il faut savoir aussi que ces produits répondent au fait aussi que les salariés ont de moins en moins de possibilités d'agir sur les conditions de travail, sur l'organisation du travail. C'est quand il y a une forme d'empêchement à transformer le travail que les produits s'avèrent des ressources pour faire le travail. Il n'y a pas de fatalité non plus à ça. D'une certaine façon, si les salariés étaient mieux participer mieux à la définition de leurs conditions de travail ou avoir plus de possibilités d'aménager leur temps de travail en fonction des spécificités du moment, etc., ou de leur état de santé, ou pouvaient changer, avoir un peu prise sur la façon dont leur travail était organisé, il n'y a aucune raison qu'ils prennent des produits. Aucune raison.
Oui.
Voilà.
Je reviens là-dessus parce que ça m'est marqué. On n'est pas dans des usages récréatifs. On n'est jamais dans des. Enfin, pas dans ce sujet-là. On n'est pas dans des usages récréatifs. C'est-à-dire que c'est pas. On prend pas la drogue pour le fun ou pour passer un bon moment. Donc il y a bien un lien direct, je dirais, entre les nécessités du travail et la prise.
Oui, bien sûr.
D'ailleurs, pour revenir sur la piste. Et l'autre exemple était la cuisine aussi, cuisine de restaurant.
Où
c'est la personne. Alors dans la piste, la plupart des gens qui viennent refroidis par les contrôles à l'embauche se disent je n'en prendrai plus, enfin pas au travail, je ne fumerai pas au travail. Et c'est l'ambiance du travail qui fait qu'ils se mettent au diapason de ceux qui sont déjà là et qui sont habitués et qui se remettent à fumer. Au travail. Même s'ils étaient des fumeurs avant, ils avaient prévu, eux, d'arrêter au travail. Justement, dans une logique ils anticipaient une adaptation par là. Et ben, en fait, non. Ils se sont retrouvés, en fait, dans un contexte qui favorisait le retour à des pratiques addictives, mais sur le lieu de travail, alors qu'ils voulaient s'en débarrasser en arrivant. Et le cas de la cuisine dont je parlais, c'est là pour le coup, c'est des gens qui travaillent en cuisine et c'est le chaos de l'arrière-cuisine, c'est le chaos avec les problèmes techniques, avec tous les coups de feu.
Les coups de feu. Dans la restauration.
Voilà, exactement. Ouais. Qui fait qu'ils deviennent cocaïnomanes au travail, mais sans y avoir touché avant. Donc, ils n'ont pas amené leur addiction au boulot.
C'est des primo-consommateurs.
Ils l'ont trouvé au boulot.
Alcool et cocaïne. Et notamment dans les brasseries. Les brasseries avec 3, 4, 5 services par jour.
C'est-à-dire qu'il y a certains espaces qui favorisent.
Ouais, bien sûr.
L'addiction, quoi.
Tout à fait. Je pense aussi au métier de la nuit. Encore une fois, je renvoie aux travaux de Marie Nguyen-Guéné, qui n'est pas dans le livre, mais qui a écrit plusieurs articles et une thèse là-dessus, où elle montre très bien que dans les bars de nuit, dans les boîtes de nuit, en fait, les usages de cocaïne sont prescrits par le patron, pour des raisons de pur travail et aussi récréatif. Pourquoi de pur travail? Parce qu'il faut travailler tard, il faut boire de l'alcool avec les clients pour que les clients consomment plus, et la cocaïne, on sait très bien que c'est un des usages de la cocaïne, un des effets de la cocaïne, c'est que ça anesthésie les effets de l'alcool. Voilà. Et il faut tenir, il faut toujours être souriant, etc. Et c'est des rythmes de travail extrêmement élevés, à des horaires extrêmement décalés. Et ensuite, après les horaires de travail, on peut boire un coup, on peut fêter la fin de la journée de travail, c'est-à-dire à 3h du matin, en fumant un pétard, ou au contraire, en reconsommant de la cocaïne, ou de l'alcool. Donc il y a des espaces de travail qui fonctionnent en fait sur un usage de produits. Et ça renvoie de toute façon à tout un ensemble d'autres métiers. Les métiers de la mer avec l'alcool, puis maintenant avec d'autres types de produits. Le monde militaire aussi. Le monde militaire a été un gros lieu d'expérimentation de tout un ensemble de produits pour être militaire, pour aller au feu, pour l'attente, pour l'ennui, pour etc. Voilà. On retrouve ça aussi dans les logiques de caserne.
Ouais. On dévie du sujet du travail, mais la grande explosion des amphétamines, c'est la Seconde Guerre mondiale avec l'usage énorme de pervitine par la Wehrmacht, en fait, hein, pour tenir pendant des heures au front, sous le feu, sans pouvoir être relevé. Et on y va. Et les pilotes aussi, d'ailleurs. C'est quelque chose qui a été testé sur les pilotes à cause des contraintes psychologiques et physiques qu'il y a à conduire des avions qui vont de plus en plus vite, où tous les sens doivent être en éveil en permanence. Donc, amphétamine, pervitine, MDMA, tout ça, ça a été inventé par l'armée. Hein.
Tout à fait. Et l'armée a même inventé le dépistage des drogues. Bon. Faut savoir que les premiers dépistages des drogues, en fait, ont été élaborés dans une logique clinique. Hein. C'était Doll et Nisswander dans le cadre des premiers traitements par la méthadone qui ne marchaient que pour les opiacés. Et donc, il fallait s'assurer que les patients qui rentraient dans les premiers programmes de méthadone prenaient bien des opiacés et pas autre chose. Sinon, la méthadone ne fonctionnait pas. Donc, ils ont dépisté leurs patients. Ils ont sélectionné leurs patients grâce aux tests de dépistage. Bon. Ensuite, qu'est-ce qu'il s'est passé? Il s'est passé quelque chose de tout à fait étonnant. C'est la guerre du Vietnam.
Alors je pensais au film d'Atman, je sais pas si vous l'avez vu, film qui se passe donc dans les années 70, et vous avez donc les officiers qui sont particulièrement avinés, je crois les trois quarts du temps dans ce film. Atman, donc effectivement, il y a aussi le mouvement des droits civiques. Donc il y a des tensions entre les conscrits, il y en a un qui est noir et plutôt Black Panthers, et voilà, et Atman monte ce film et je vois ces officiers dans ce film qui sont avinés, je pense, pendant les trois quarts du film. Et qui explique face à la violence de ce que fut la guerre d'Algérie, la guerre du Vietnam.
Moi, je pense à un autre film, je pense à Platoon d'Oliver Stone aussi. On voit très bien d'ailleurs une opposition entre ceux qui consomment de la marijuana et ceux qui consomment de l'alcool. Mais pourquoi ça a été important, la guerre du Vietnam, pour le dépistage des drogues? C'est que ça fait rentrer le dépistage dans une logique de grand nombre. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand Nixon arrive, il veut sa réélection sur le principe de la lutte contre le crime. Or, c'est à ce moment-là aussi qu'on commence à organiser le retour des troupes américaines du Vietnam. Et qu'est-ce qu'on sait? Il y a un certain nombre d'études qui montrent qu'une grosse partie des soldats américains sont dépendants des drogues au Vietnam. On consommait énormément de drogues. Et donc, il y a eu une panique s'est emparée du gouvernement américain en se disant, est-ce qu'on va faire revenir du Vietnam des jeunes hommes qui ont combattu pendant plusieurs années, donc ont manié des armes, et qui sont en plus dépendants de drogue, sachant que le lien aux États-Unis entre drogue et criminalité est un lien très fort qui remonte aux années 30, en fait. Donc qu'est-ce qu'on s'est dit? On va faire en sorte d'affendre les faire revenir sur le territoire américain, et bien on va les dépister. Bon. Et donc on a mis en place on a demandé à l'industrie pharmaceutique de l'époque de fournir des instruments qui permettent de dépister les drogues consommées par les soldats américains avant leur retour sur le territoire américain. Et c'est là que, en fait, le dépistage s'est opéré non pas aux États-Unis, hein, mais en Thaïlande, dans des grands centres, l'opération Golden Flow. Hein, on pourra traduire comme, l'imaginaire est assez. Il s'agissait donc de faire pisser les soldats dans des bocaux, les tester. Et ceux qui étaient positifs, on leur donnait de la méthadone pendant 15 jours avant de les autoriser à rentrer sur le sol américain. Et après, cette façon de faire a été reprise dans les années 80, au cours des années 70 avec l'amélioration des techniques de dépistage, et surtout dès le début des années 80, avec l'arrivée de Reagan au pouvoir, avec la guerre contre la drogue, qui a fait qu'on considérait que le manque de productivité des entreprises américaines était pallié, en fait, à des investissements à court terme, au commencement de la compétition avec les pays asiatiques, mais au fait qu'un certain nombre de salariés américains consommaient des drogues. Et on considérait que c'était pour ça qu'il y avait un problème de compétitivité des entreprises américaines. Bon. Et en fait, on sait très bien que l'agenda politique de Reagan à cette époque-là était un agenda très conservateur. Il s'agissait d'en finir avec les années d'hédonisme des années 60 et 70. Et donc, en fait, on a repris de l'expérience américaine dans l'armée, dans les entreprises, et d'abord dans les grandes entreprises américaines, le dépistage et drogue pour sélectionner les salariés, pour fliquer les salariés, etc.
Et c'est cette logique qui perdure.
Et qui perdure, voilà.
Aujourd'hui,
Et en fait, le marché américain du dépistage, qui représente grosso modo entre 1 et 2 milliards de dollars par an, hein, était saturé à la fin des années 80. Hein, et donc, les entreprises pharmaceutiques qui fabriquaient des tests ont cherché d'autres débouchés. Et un des débouchés, Hein, ça a été l'Europe, évidemment, et on a eu une pression très forte à la fin des années 80, notamment en France, sur ce qu'on a, on pourrait appeler aujourd'hui la MILDECA, mais qui était la MILT, pour des tentatives de faire en sorte de présenter le dépistage de drogue comme une solution hein, à ce qui se passerait. On pense qu'il se passerait dans les entreprises françaises, alors qu'on n'en avait aucun chiffre, aucune donnée là-dessus, à savoir la consommation de drogue par les salariés français. Voilà. Ouais. Et c'est une histoire qui commence dès la fin des années 80 et qui va aboutir un peu plus tard, enfin on pourrait y revenir peut-être, ouais. avec une décision du Conseil d'État de décembre 2016 qui autorise aujourd'hui un simple supérieur hiérarchique à opérer un test de dépistage sur un salarié. Et ce n'est plus la médecine du travail qui a le monopole de cela depuis décembre 2016.
On reviendra dessus. En tout cas, je savais bien qu'il y avait une arnaque derrière toute cette histoire de dépistage, etc. C'est pour ça que la chanson « Ce qui suit » est dédicacée et entièrement dédiée à notre sujet.
Ce Conseil d'État, si ça...
Chers téléspectateurs, bonjour. Comme vous le voyez, nous sommes vraiment habillés de lumière ce soir. Cela est ton tutu rose. Magicker s'est déguisé en tour Eiffel, je ne sais pas pourquoi. Et moi, je suis dans des habits très, très sexy ce soir.
Ok, donc, on a eu un petit problème technique. C'est normal, c'est le sujet, c'est tout ça. On s'était préparé, on ne vous cache pas pour l'émission. Et donc, résultat net, bah oui, ça ne roule pas comme d'habitude. Je pense que la technique n'a pas eu son rail, donc résultat net, rien n'est au point. Voilà, nous allons envoyer le morceau qui est en rapport avec l'émission. Hein, ça va arriver tout de suite. Hein, et on va soigner la technique. Viens là, Gilou. Il est temps de prendre le train. Ça avance ou t'en veux un deuxième? Ah, d'accord, le deuxième arrive, ouais, je m'en doutais. Il faut le motiver, dis donc. Hein. Oh là là. Non, le sujet de ce soir n'est absolument pas l'addiction au travail.
L'idée est excellente, si bonne que partout on la voit combattue. Il n'est pas d'idée juste qui soit trop encombrante, sauf pour tous ceux qui veulent que les gens n'en aient plus. Chili, Budapest et la Chine ont largement montré en un triste refrain que quiconque veut changer un ordre qui réprime se retrouve en prison ou mort le lendemain.
Oui, alors nous reprenons l'émission sur la question de l'usage des produits psychotropes dans le monde du travail. Nous sommes avec Renaud Crespin, qui a coécrit avec Dominique L'Huillier, Gladys Lutz, l'ouvrage intitulé « Se doper pour travailler » aux éditions RS dans la collection Clinique du Travail. Alors Renaud, avant la pause musicale, nous en étions donc à l'examination plus approfondie dans votre travail sur la façon dont l'administration et quand vous avez évoqué ces décisions du Conseil d'État du 5 mai 2016 donc à propos du volet plus répressif hein, en fait hein, que recouvre ce dépistage dont vous avez évoqué presque la socio-histoire de ce rôle et de la fonction du dépistage. Et alors moi bon j'ai quand même effectivement un petit peu de mon enfin très très succinctement malheureusement j'aurais voulu y consacrer davantage de temps, mais j'ai été consulter donc les quelques brochures sur l'addiction faites par des instituts spécialistes qui donc se présentent comme ou sont considérés comme des références nationales en termes de prévention de sécurité et de santé au travail. Je pense à l'Institut de recherche nationale sur la sécurité et leur mention de ils mentionnent dans leur brochure de mars 2018, ce qui n'était pas le cas dans celle de 2013, que je possède par ailleurs, ils mentionnent... alors, la question de l'organisation au travail n'est pas mentionnée. Mais les relations de travail peuvent effectivement être cause. Et ça, alors, c'est nouveau. Est-ce qu'il y aurait quand même une prise en considération, une prise en compte de ces éléments nocifs intrinsèques à l'organisation du travail largement en faveur de l'employeur, comme on l'a vu, et qui semble effectivement diriger les décisions administratives, comme on l'a vu avec la décision du Conseil d'État. Est-ce qu'il y a un début de prise en compte? Parce que la question quand même essentielle, c'est que un modèle comme ça ne peut pas tenir dans le temps. Enfin, cette souffrance du salarié ne peut pas, enfin, est limitée dans le temps. Elle peut pas. Ou alors, est-ce qu'on rentre dans un modèle américain du type recours aux opiacés parce que la douleur, donc, et la violence retournée contre soi.
Moi, j'ai pas vraiment de boule de cristal. Par contre, ce que je peux remarquer...
Non, comme indication du côté des agences de prévention qui prennent en compte...
Ce que je remarque, moi, sur le terrain, c'est que dans ce... Il y a une transformation... Si vous voulez, les savoirs qui servent à organiser, à rendre possible l'action publique, ils évoluent. Hein, c'est un peu la tectonique des plaques. Ça met un temps... C'est long.
C'est long.
Le travail long.
Oui.
C'est de la sédimentation.
C'est ça.
Et c'est aussi la possibilité d'avoir, à un moment donné, d'une rencontre entre des gens qui sont en charge de définir des plans, qui sont en charge de définir des problèmes, et notamment la question des drogues au travail, des addictions au travail, qui sont, à un moment donné, confrontés à des nouveaux savoirs qui étaient jusqu'à présent occultés, pas disponibles, ou qui étaient marginaux. Bon. Et je dois dire qu'à la faveur des 4-5 dernières années, notamment à la MILDECA, il y a un certain nombre de personnes qui ont, disons, élargi leur champ de connaissances, qui ont été voir dans les travaux de sociologie, qui ont été voir dans les travaux d'anthropologie, de clinique du travail, d'ergonomie, qui ont peut-être lu aussi nos ouvrages, qui ont peut-être aussi se sont rendus compte qu'il y avait des savoirs qui jusqu'à présent n'avaient pas été utilisés dans le cadre des appels d'offres. Pourtant, sur cette question-là, existe depuis un certain nombre d'années à la MILDECA, puis à la MILDECA. Et ça a fini par infuser. Bon. Et donc, d'une certaine façon, aujourd'hui, on est à un moment donné où s'ouvre, petitement, hein, mais s'ouvre quand même la question des effets nocifs de certaines organisations du travail sur la santé des salariés. Alors, bien sûr, il y a eu les précédents des suicides à Orange, il y a eu tout un mouvement syndical qui s'est notamment sur les risques psychosociaux aussi, l'articulation entre addiction et risques psychosociaux, c'est une relation qui est ambiguë et complexe, mais qui participe aussi de cette question de la souffrance psychique liée à certaines organisations du travail. Et en tout cas, on peut dire qu'aujourd'hui, on arrive à quelque chose qui ouvre la possibilité de considérer les usages de produits non plus uniquement du côté de la faute individuelle, mais aussi du côté de quelque chose qui serait multifactoriel et dans lequel rentrerait la question des organisations, des conditions de travail. Bon. Pour autant, on reste quand même dans une logique qui est celle de la conduite addictive. Bon. Et que la conduite addictive, ça renvoie toujours quand même systématiquement à l'individu. Bon. Donc il faudrait, d'une certaine façon, peut-être se déprendre complètement de cette question-là. C'est-à-dire qu'en fait, la conduite addictive renvoie au fait que, dans certains cas, certaines organisations de travail, parce que certains individus seraient plus vulnérables que d'autres, pourraient mener à des addictions. Alors même que ce qu'il faudrait penser, c'est le travail réel. Hein, il faudrait déplacer la question complètement, se déprendre de cette approche par produit, de cette approche par individu, pour poser la question de l'organisation collective du travail. Hein. Mmh. Et ça, c'est encore une étape supplémentaire. Alors, une porte est ouverte, mais on renvoie toujours à cette fameuse question de l'addiction, qui est quand même quelque chose de tout à fait intéressant. Pourquoi ? L'addiction, c'est paradoxal. C'est-à-dire, si on veut ouvrir la question du travail, si on veut de la réalité du travail, du concret du travail, de ses organisations, hein, et faire participer, il faut ouvrir la parole. Il faut permettre des échanges, hein, du dialogue, du débat au sein des organisations. Or, quand on parle d'addiction,
C'est quand même paradoxal de vouloir permettre d'avoir une solution qui serait d'ouvrir la parole, le débat, avec une conception par le biais des addictions qui fait des usages de produits un problème cérébral. Grosso modo, c'est du stimuli. Voilà. Donc la parole dans cette histoire-là, elle est évacuée, puisque c'est un problème de cerveau, grosso modo. Donc on est dans des mouvements...
De cerveau, neurosciences, c'est plutôt l'approche...
L'approche par les addictions, c'est grosso modo, on est dans une logique de manque et on prend un produit pour remplir ce manque et on est dans une situation comme ça. Voilà.
Donc c'est plutôt psychologisant, là.
On n'est pas psychologisant, malheureusement. Ouais. C'est-à-dire que justement, les addictions sont venues remplacer tout un ensemble d'approches qu'on pouvait critiquer sur plein d'aspects, qui oubliaient le côté somatique, etc. Mais des approches d'inspiration plus psychanalytique ou plus psychologisante, mais compréhensive, vers des logiques d'addiction qui parfois, alors pas par les addictologues forcément, mais par les usages qu'on fait de l'addiction, on fait un problème, grosso modo, si on est addict, on peut pas s'en sortir, c'est un problème de cerveau. Il y a une espèce de banalisation, de vulgarisation de cette approche-là, qui a des effets délétères dans les entreprises. Et puis surtout, il faut comprendre que beaucoup d'addictologues, eux, sont démunis vis-à-vis du travail. Et ils sont en demande d'avoir des analyses du travail qui permettent de comprendre certaines formes de consommation chez leurs patients. C'est la même chose pour la médecine du travail, c'est la même chose pour la médecine de ville. La question des usages de produits en médecine de ville, elle est rarement pensée à l'aune de la question du travail. Parce que le médecin, il a un patient en face de lui, il n'a pas un salarié. En cela, le dernier plan qu'on a attendu très longtemps, encore une fois, essaye d'ouvrir, propose des ouvertures, propose par exemple de travailler avec l'ANACT, avec la DGT, sur des formations, Mais c'est quelque chose qui reste quand même, d'une certaine façon, du saupoudrage, ou des choses qui... Alors, on va voir, parce que le travail de l'ANACT, par exemple, pourrait permettre...
Tu peux juste dire ce que c'est ?
C'est l'Agence nationale sur les conditions de
travail. L'amélioration des conditions de travail.
D'accord, merci.
Qui a fait une réflexion en amont qui est plutôt intéressante, et qui propose quelque chose qui rentre dans l'ordre de la compréhension des situations de travail et qui ne rentre pas par le biais des produits. Et ce déplacement-là, c'est encore une fois la technologie des plaques. Il faut que ça se diffuse. Il faut qu'on puisse déplacer ce débat-là. Or, en matière de drogue,
c'est encore miné.
On est quand même dans quelque chose qui...
Les représentations sont très fortes.
On se heurte à des choses très, très, très puissantes. Et de dire à un moment donné que les usages de produits ne sont pas forcément nocifs et des risques pour les entreprises, mais sont des ressources, c'est un déplacement radical. Mais pourtant, c'est par cette forme de radicalité-là qu'on pourrait peut-être comprendre dans quelle situation ce sont des ressources. Et pourquoi ce sont des ressources chez les salariés.
Pourquoi se sont posées comme telles.
C'est bien ce qui nous intéressait, nous,
De voir ça comme ça. Alors, justement, je veux pas faire mon inspecteur, comme d'habitude, mais je voulais juste revenir sur quelque chose. Non, le problème, parce que moi, j'identifie quelque chose dans la manière dont nous sommes confrontés sur le terrain, aux risques psychosociaux, notamment, en partie au TMS, et donc à cette question d'addiction, parce qu'on l'aborde pas du tout du bon côté. Je parle en tant qu'inspection du travail, et notamment, si je reviens sur les risques psychosociaux, c'est qu'il y a un vrai point commun sur la manière dont c'est abordé pour être évacué dans l'entreprise. Le risque psychosocial est toujours abordé en premier lieu par la fragilité intrinsèque du salarié. C'est-à-dire qu'on renvoie à la situation de tel salarié qui a fait une tentative de suicide ou qui est parti en dépression ou qui a craqué dans l'entreprise. Et on analyse ce salarié un peu dans son contexte de travail, notamment pour déterminer est-ce qu'il y a quelqu'un qui le harcelait ou quelque chose comme ça. Ça c'est encore acceptable. Qu'il y ait un harceleur dans l'entreprise, c'est acceptable pour l'entreprise. Que l'organisation du travail soit pathogène et qu'il faille en changer radicalement parce que c'est le symptôme d'une organisation de travail pathogène,
toxique.
Ça, c'est inacceptable. Et ça, c'est là où il ne nous est pas permis d'aller. On est autorisé quand on
c'est
fait une enquête.
C'est pour ça qu'il faut que ça change.
Oui, c'est ça. On est autorisé quand on fait une enquête sur, par exemple, un suicide, à chercher un harceleur. On n'est pas autorisé. Oui, un responsable. Exactement. Ça peut être le supérieur hiérarchique, ça peut même remonter très haut. Ça, les entreprises sont prêtes à jouer le jeu là-dessus, de trouver un bouc émissaire. Il n'y a pas de problème. Par contre, qu'on leur fasse comprendre que c'est le travail en 4-2, par exemple. Donc 4 jours, puis 2 jours de repos. Ce qui ne fait pas 7. Donc ça se décale. Chaque mois, ça se décale.
Mais je comprends pas.
Que la source du travail soit dans l'organisation ou les prérequis du travail, ça, c'est ce que les employeurs ne veulent pas entendre. Et notamment là, je reviens sur le livre. Il y a le cas d'une policière. Alors c'est un sujet aujourd'hui qui est particulièrement mis en avant. Parce que effectivement, les policiers ont des conditions très difficiles. Et là, ils sont en plein dedans, ils sont en plein dans la nasse. C'est que là, ils sont tous en 4-2 parce qu'ils sont tous obligés de tourner sur les mobilisations des gilets jaunes. Ça fait quoi le 4-2? Ça fait qu'on voit pas sa famille. Voilà. On voit sa famille en week-end une fois toutes les 6 semaines. Parce que sinon, on travaille le week-end. C'est ça le 4-2. Et il y a plein de professions qui sont comme ça. Hein. Policiers, infirmières, c'est pas exactement le même rythme. Mais c'est des rythmes comme ça, très intenses, puis mais qui n'est pas calé sur la semaine civile ordinaire. Et donc, on est décalé par rapport à tout le reste de la population. Même chose pour le travail de nuit, bien sûr. Mais ça, par exemple, et les CRS qui circulent dans des grandes rotations, où ils voient pas leur famille pendant plus... Ils sont avec, en fait, leurs collègues 24-7 pendant presque une semaine... là, il y a des pratiques, effectivement, pour tenir, pour ne pas déprimer, loin de la famille, etc. Et qui génèrent... Et là, c'est directement l'organisation du travail qui génère le stress, l'addiction, le risque psychosocial, tout ce qu'on veut. Et ça, c'est pas remis en question. C'est un jour, il y aura un policier qui se suicidera à tel endroit, on va chercher ses antécédents familiaux, ses antécédents psychiatriques, etc. On n'interrogera jamais le fait que, pour les besoins du travail, il a été désocialisé, en fait. Et ça, nous-mêmes, on ne le fera jamais admettre aux employeurs. C'est-à-dire qu'une règle dans notre intervention, c'est on ne remet pas en cause l'organisation du travail. Ou alors, il faut un travail de fou. Il faut un travail de fou pour mettre en valeur.
Parce que très naïvement, je pensais que les employeurs, les agents de prévention travaillaient ensemble, les agents de soins travaillaient ensemble. Et que quand, effectivement, on aborde ces questions du 4-2, comme tu viens de l'expliquer, ou des autres horaires atypiques, il me semble quand même que les notions de rythme chronobiologique, enfin tout ça, enfin c'est acté dans la loi, dans la réglementation. Donc ça veut dire que la réglementation n'est pas... Mais si, c'est acté.
Oui, mais sauf pour certaines professions. C'est-à-dire que c'est acté dans le code du travail général que le repos sera donné un dimanche, par exemple. Mais ça, c'est le code du travail général, et je peux t'assurer qu'il y a... Voilà. Tous les autres régimes sont exceptionnels. Ce soit le soin...
Ah, c'est comme ça que c'est
fait. Et oui. Et le travail
donc,
de nuit, c'est déjà...
Donc, toujours le code du travail, parce que c'est quand même la réglementation.
Je suis bien désolé de le dire, mais oui. Et puis, par ailleurs... Mais bien sûr, d'une part, mais aujourd'hui, il y a quand même un Français et une Française sur 7 qui travaillent en horaire atypique, dimanche ou nuit.
Ouais.
Donc, c'est pas rien.
D'accord.
Donc ça veut dire que il y a la règle générale, le travail de bureau, et il y a
tous les autres. Que préconise le code du travail sur ces questions sont pas respectées en fait.
C'est pas ça. Non. C'est dans la loi qu'il y a des dérogations. Le code du travail. Non mais faut voir le code du travail. Plus il est gros, plus il est rempli de trous. Ça il faut le savoir. Toutes les réformes qui avaient lieu de simplifier le code du travail ont augmenté le volume. En 2013, ils ont été obligés, Dalloz a été obligé de changer la graphie, la taille de police et l'organisation de ses pages et de donner un peu plus de taille à ses pages pour que le code du travail ne fasse pas 50 cm d'épaisseur. Ça c'est suite aux différentes réformes. La loi travail a rajouté 10%.
N'a fait qu'épaissir le code du travail.
N'a fait qu'épaissir le code du travail.
Alors que l'intention était l'inverse, comme d'habitude. Mais donc, en fait, c'est ça. C'est ce système dérogatoire introduit depuis les années 80 qui bouleverse tout.
C'est ça.
Qui fait que...
C'est ça. Mais pas seulement ça. Le problème, c'est que la prévention prévient l'événement. C'est-à-dire que grosso modo, on intervient et on a les plus de pouvoir quand il y a eu un événement exceptionnel qui sort de l'ordinaire. D'accord ? Et là, le patron va nous ouvrir les portes pour qu'on analyse l'événement, qu'on neutralise l'événement et qu'éventuellement on dégage ça.
T'évites le risque. Quoi.
Non, oui, voilà. Mais il est quand même capable d'accepter qu'on mette en cause sa responsabilité parce qu'il y a eu une connerie. Ça, il veut bien accepter ça. L'employeur et les employeurs en général. Ils veulent bien qu'on intervienne dans l'entreprise pour dire là, il y a t'as merdé toi. Mais quand ça, ils veulent bien.
Oui, tu veux dire
qu'on leur dise.
Sa responsabilité,
en
fait.
Ouais. Qu'on leur dise tout votre business plan et toute l'organisation du travail qui en découle, c'est juste pas viable. Ça, ils veulent pas l'entendre. Et ils sont pas prêts à l'entendre. Et le préventeur ou l'inspecteur du travail qui rentre dans l'entreprise et qui dit ça, il rompt le contrat tacite qui lui permet de rentrer dans l'entreprise et de se faire entendre. Parce qu'il joue plus le jeu. Il va trop à la racine du problème. Et là, pour le coup, il est hors jeu. Il est hors jeu. C'est un coup à se prendre une sanction disciplinaire. D'accord ? Et c'est du non-dit, hein. On est dans du parfaitement pas du tout explicité, c'est pas écrit dans la loi ou quoi que ce soit, quoi. Voilà. Donc, et je vois bien la logique dans ce que j'ai lu du livre, hein. Il y a une logique qui est, on veut bien interroger jusqu'à un certain point, on veut bien faire du dépistage jusqu'à un certain point, appliquer des règles de sécurité jusqu'à un certain point et tout, jusqu'à ce qu'on rentre frontalement en opposition avec la logique de l'entreprise qui impose l'addiction. Voilà.
La logique du dépistage, c'est pas une logique. C'est fini.
C'est fini. Je suis vraiment désolé là. On a eu quelques petits soucis. Bon, mais peut-être que tu vas pouvoir nous mettre IAB maintenant, Gilles, pour finir l'émission. Hein
Alors, on n'a pas eu le temps sur les syndicalistes.
Ben oui, je suis désolé. Mais...
Non, mais c'est trop court.
Ouais, mais c'est vrai que c'est une heure. Je pensais que ça allait être court.
Une heure, ça s'envole. Hein.
C'est
ouais,
frustrant. Hein.
Ouais. Et c'est pour ça que l'émission d'avant s'appelle L'Envolée. Hein. Non, ils savent de quoi ils parlent.
Moi, je suis là. They tried to make me go to rehab, I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, no, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine, they tried to make me go to rehab, I won't go.